Voix Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du jeudi 16 février 2023. Bonjour à toutes et à tous en direct de Washington. Idrissa Sédoulia, tout d'abord les titres. En RDC, nouvelle attaque en Ituri à la veille du recensement des électeurs. RDC toujours, le gouverneur du Sud Kivu accuse Kigali de vouloir attaquer la province. Le Burkina réquisitionne 200 kilos d'or d'une mine canadienne pour nécessité publique. En Éthiopie, au moins 50 morts en Oromia, selon un organisme de défense des droits humains. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken en Turquie dimanche pour se rendre compte de l'effort humanitaire après les récents tremblements de terre dans ce pays et en Syrie voisine. Le président de la Banque mondiale, David Malpass, démissionne. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. Dans l'est de la République démocratique du Congo, de nouvelles violences ont fait 5 morts hier en Ituri alors que les opérations de recensement des électeurs doivent débuter aujourd'hui, Claire Morin-Dibourg.
Il y a eu incursion des rebelles ADF dans la localité de Boukima. 5 personnes, dont 3 femmes et 1 enfant, ont été tuées, a indiqué Faustin Braza de la chefferie de Bonyali Tchabi, ajoutant que la localité est complètement vidée de sa population par les attaques répétées. Depuis la fin de l'année dernière, les morts se comptent par dizaines presque chaque semaine en Ituri. Nous espérons que la présence des militaires congolais et ougandais qui mènent des opérations conjointes contre les ADF pourra rassurer les civils pour l'enrôlement des électeurs, a déclaré un autre habitant. Ces opérations d'enrôlement des électeurs doivent commencer ce jeudi dans 7 provinces de l'Est et du Nord-Est, les plus affectées par les violences. En Ituri sévissent des milices communautaires comme la CODECO ou la milice Zahir. Les rebelles ADF sont restés actifs dans le sud de l'Ituri et le nord du Nord Kivu, qui est également confronté à la rébellion du M23.
Par ailleurs, le gouverneur de la province du Sud Kivu, dans l'est de la RDC, a échangé des accusations avec le Rwanda voisin hier, quelques heures après un échange de coups de feu à la frontière Nanitalani.
Dans un communiqué, l'armée rwandaise affirme qu'entre 12 et 14 soldats congolais ont pénétré la nuit dans le No Man's Land entre les deux frontières près de Rusizi et ouvert le feu sur leur poste frontière. Nos forces de sécurité ont répondu et les soldats congolais se sont retirés, a-t-elle ajouté, demandant à un panel bilatéral d'enquêter sur cet acte de provocation. Le gouverneur de la province du Sud Kivu, Théo Ngwabidje, a qualifié l'accusation rwandaise de mensonge. Il confirme qu'un incident s'est produit à la frontière, mais il le décrit comme une altercation impliquant un échange de tirs entre les forces de sécurité congolaises et des criminels en fuite. Les bandits ont fait 1 mort et 1 blessé, précise-t-il, ajoutant que les forces congolaises n'ont à aucun moment pénétré dans la zone neutre et encore moins ouvert le feu sur le Rwanda. Pour le gouverneur Ngwabidje, la tendance du Rwanda à vouloir se présenter comme une victime et à attiser les tensions par de fausses accusations révèle son intention d'attaquer le Sud Kivu, comme c'est le cas dans la guerre qu'il mène au Nord Kivu.
Le Burkina Faso a réquisitionné 200 kg d'or produit par une filiale du groupe canadien Endeavour Mining pour nécessité publique, une décision dictée par un contexte exceptionnel selon le gouvernement de transition de ce pays qui fait face à une grave crise sécuritaire. Mardi, un arrêté signé par le ministre des Mines, Simon-Pierre Boussim, a annoncé la réquisition de l'or produit par la société d'exploitation minière d'or de Semafo, Burkina Faso, John Linden.
Cet arrêté stipule que, conformément à l'article 16 du Code minier, 200 kg d'or produit à la mine de Mana dans l'ouest du pays sont réquisitionnés ce jour pour nécessité publique. Le texte indique que la société minière percevra une indemnisation correspondant à la valeur de l'or ainsi réquisitionné, sans plus de précision. Mercredi soir, le gouvernement a souhaité rassurer les investisseurs et tous les autres partenaires du Burkina Faso. La décision de réquisition est dictée par un contexte exceptionnel de nécessité publique qui fonde l'État à demander à certaines sociétés minières de lui vendre une partie de leur production d'or, poursuit un communiqué du porte-parole du gouvernement, Jean-Emmanuel Ouédraogo. Depuis plusieurs années, le Burkina Faso est engagé dans une lutte contre des groupes djihadistes liés à l'État islamique et Al-Qaïda, dont les attaques sanglantes se sont intensifiées ces dernières semaines. Le communiqué gouvernemental précise que cette transaction, à titre exceptionnel et temporaire, s'effectue aux conditions d'achat de l'or sur le marché international.
Au moins 50 personnes ont été tuées début février dans des violences ethniques en région Oromia, la plus vaste et peuplée d'Éthiopie, a indiqué hier la Commission éthiopienne des droits humains, Mohamed Humfa.
La Commission des droits de l'homme affirme que des hommes armés ont fait irruption le 2 février dans la localité d'Ano où vivent plus de 10 000 déplacés et ont tué maison par maison. Au moins 50 personnes, dont un responsable régional, son chauffeur ainsi que des policiers et membres de milices, ont été tués d'après cette institution publique statutairement indépendante. Les rescapés de l'attaque ont dit à la Commission que les assaillants portaient des uniformes de la rébellion de l'armée de libération Oromo et que les massacres ciblaient les Amara. Oromo et Amara sont les deux ethnies les plus nombreuses du pays. La région de l'Oromia est le théâtre des violences en raison de divisions à caractère ethnique, politique et foncier. Depuis 2018, les forces fédérales et régionales y affrontent les rebelles de l'armée de libération Oromo, fer de lance du nationalisme qui se nourrit d'un ressentiment croissant de la population locale envers Addis Abeba et le premier ministre Abiy Ahmed, lui-même d'origine Oromo.
Les États-Unis ont dénoncé mercredi la vague d'arrestations d'opposants en Tunisie et appelé les autorités à respecter une justice indépendante et transparente qui protège les droits fondamentaux de tous les Tunisiens. Nous sommes profondément préoccupés par les informations faisant état d'arrestations de plusieurs personnalités politiques, hommes d'affaires et journalistes en Tunisie ces derniers jours, a déclaré à la presse le porte-parole du département d'État, Ned Price. Depuis samedi, 10 personnalités, pour la plupart des opposants appartenant au parti d'inspiration islamiste Ennahda et ses alliés, mais aussi le directeur d'une grande radio privée et un très influent homme d'affaires, ont été arrêtés lors d'un coup de filet.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, se rendra dimanche en Turquie, frappé comme la Syrie voisine par un séisme dévastateur, afin d'y constater l'effort humanitaire en cours, a annoncé mercredi le département d'État. Des précisions de Georges Léonard Sagnon.
Monsieur Blinken rejoindra d'abord la base aérienne d'Incirlik dans le sud-est du pays, d'où part une partie de l'aide humanitaire pour les zones sinistrées le 6 février par un puissant séisme qui a fait près de 40 000 morts, puis à Ankara où il aura des entretiens avec les autorités turques dimanche et lundi, selon un communiqué. Monsieur Blinken entamera cette nouvelle tournée européenne dès ce jeudi par l'Allemagne, où il participera vendredi et samedi à la conférence de Munich sur la sécurité qui sera largement consacrée à l'effort de guerre en soutien de l'Ukraine contre la Russie ainsi qu'à la rivalité entre les deux superpuissances américaines et chinoises. Et il l'achèvera par un déplacement lundi soir et mardi à Athènes, en Grèce. Les États-Unis ont déployé la semaine dernière plusieurs équipes de recherche et secours en Turquie, soit environ 200 personnes, et ont débloqué une première tranche de 85 millions de dollars en aide humanitaire. Ils ont également fourni des hélicoptères Black Hawk et Chinook pour transférer les fournitures, selon des responsables. L'aide en Syrie passe par des partenaires locaux, les États-Unis refusant tout contact avec le président syrien Bachar al-Assad.
Le président de la Banque mondiale, David Malpass, a annoncé mercredi qu'il quitterait son poste d'ici le 30 juin, avec un an d'avance, en pleine réforme de l'institution, pressé d'en faire plus sur la question climatique. 13e président de la Banque mondiale, M. Malpass, 66 ans, avait été nommé pour 5 ans en avril 2019, sur proposition de l'ex-président républicain Donald Trump. Les raisons de la démission de M. Malpass n'ont pas été précisées. Il s'était récemment trouvé sous le feu des critiques accusées par l'ancien vice-président américain Al Gore d'être climato-sceptique et de n'avoir pas su renforcer le financement de projets climatiques dans les pays en développement. Ici aux États-Unis toujours, un jeune tenant de la suprématie blanche qui a tué 10 personnes noires en mai dans un supermarché à Buffalo dans l'État de New York a été condamné mercredi à une peine incompressible de prison à vie. Il n'y a pas de place pour vous, ni pour votre idéologie imbécile, haineuse et malfaisante dans une société civilisée, a dit la juge Susan Egan à Peyton Gendron, 19 ans. Vous ne verrez plus jamais la lumière du jour comme un homme libre. La Minute Éco, Mohamedou Humpa.
Le premier ministre tanzanien, Kassim Majaliwa, a interdit lundi l'emploi des enfants dans les mines. Selon un communiqué publié par ses services, il a observé que certaines personnes engagées dans le secteur minier employaient des enfants pour bénéficier d'une main-d'œuvre bon marché. Il a ordonné aux autorités des zones minières de contrôler les personnes employées dans les mines dans le but de découvrir celles qui ont engagé des enfants. La digitalisation des services agricoles constitue un outil incontournable pour la transformation et l'amélioration de l'agriculture à Madagascar, a déclaré mardi le ministre malgache de l'Agriculture et de l'Élevage. La digitalisation numérique résout tous les problèmes liés au désenclavement géographique. Elle permet d'accélérer la production agricole par la collecte des statistiques et des informations indispensables pour faciliter la prise de décision au niveau de l'administration, a-t-il expliqué. Près d'un million de producteurs agricoles en Côte d'Ivoire ont déjà reçu leur carte professionnelle depuis le lancement le 2 février de la distribution de la carte du producteur de café cacao. Cette carte a vocation multifonction et dotée d'un code QR qui renferme toutes les informations sur le producteur et son verger et d'une puce bancaire pour permettre des transactions financières sur la commercialisation des produits.
Merci Mohamedou. Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Bernard Rohr est le nouveau sélectionneur du Bénin.
Effectivement, lors de sa réunion, le comité exécutif de la Fédération béninoise de football a choisi le technicien franco-allemand pour prendre les rênes des écuries. Les détails avec notre correspondant Boyko au Bénin, Élisée Mpatine.
En attendant l'officialisation de ce bail entre les deux parties le 21 février prochain, la Fédération béninoise de football annonce avoir jeté son dévolu sur l'ancien coach de Bordeaux, d'Ajaccio de Nice ou encore de l'Étoile sportive du Sahel. Les autorités béninoises, pour rester collées à leur ambition d'avoir un sélectionneur haut de gamme, veulent miser sur l'expérimenté Guénot Rohr. Âgé de 70 ans, l'ancien coach de Créteil est un connaisseur du football africain pour avoir traîné ses bosses un peu partout sur le continent. Guénot Rohr a été précédemment sélectionneur des Super Eagles du Nigeria, poste duquel il a été relevé par la fédération presque à la veille de la dernière Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021, bien qu'ayant fini troisième lors de l'édition de 2019 en Égypte avec le Gabon. Le franco-allemand était quart de finaliste de la CAN de 2012 et en octobre 2014, il a dirigé le MENA du Niger avant de déposer ses valises au Burkina Faso trois ans plus tard. Par ce choix, les dirigeants du football béninois veulent visiblement jouer dans la Cour des Grands, mais d'abord avec zéro point obtenu en deux sorties, ils devront se battre pour la qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en Côte d'Ivoire. Boycon, Élisée Oupati, VOA Afrique.
Athlétisme record du monde du 3000 mètres en salle pour Lamesha Girma.
Oui, l'Éthiopien a battu de plus d'une seconde le record du monde du 3000 mètres en salle en l'emportant en 7 minutes 23 secondes lors du meeting de Liévin
au Pas-de-Calais en France. Le précédent record du monde datait de plus de 25 ans. Le Kenya Daniel Komen avait réalisé 7 minutes 24 secondes à Budapest le 6 février 1998. Lamecha Girma, 22 ans, a été vice-champion olympique en 2021 à Tokyo et vice-champion du monde en 2019 et 2022. En salle, il a aussi obtenu la médaille d'argent sur 3000 mètres lors des mondiaux 2022.
Merci, Yakuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Tchad, reprise hier du procès de 454 rebelles présumés, tous accusés de l'assassinat de l'ancien président Idriss Déby Itno, tué au front en 2021. Ouverte lundi, l'audience tenue dans l'enceinte de la prison de Klesoum, à une vingtaine de kilomètres au sud-est de la capitale N'Djamena, a été ajournée. Les accusés comparaissent entre autres pour terrorisme, mercenariat, atteinte à la sûreté nationale et assassinat du président Déby. Nani Talani a joint à N'Djamena maître Francis Lokoudé, l'un des avocats des rebelles présumés.
Nous estimons que c'est un procès qui pourra nous permettre de faire toute la lumière sur le décès du maréchal du Tchad, le faux Idriss Déby Itno. C'est un dossier qui avait fait aussi son temps, parce que là, c'est passé par le juge d'instruction. Le juge d'instruction a eu à poser tous les actes utiles pour la manifestation de la vérité. Nous avons des documents versés au dossier et nous avons laissé valoir le moment venu.
Pourquoi avoir attendu près de 2 ans entre l'offensive et la capture des accusés et l'ouverture du procès?
Mais ça, c'est dû à la lenteur judiciaire toujours décriée. Nous avons eu en son temps à le relever, parce que là, suivant le code de procédure pénale, il y a un délai raisonnable. Mais là, peut-être c'est compte tenu des enjeux, c'est compte tenu de la complexité du dossier en lui-même. Et donc là, le juge d'instruction s'est donné le temps utile pour pouvoir recueillir les informations, pour pouvoir même se transporter sur les lieux. Il y a eu même des commissions rogatoires. Il y a eu beaucoup d'actes qui ont été posés dans l'intervalle. Et nous avons pensé que c'est un dossier qui est très sensible, c'est un dossier qui est très complexe. Et il fallait que le juge d'instruction puisse se donner le temps nécessaire pour faire jaillir la vérité. Et je trouve que c'est un retard qui est certes préjudiciable aux intérêts des accusés, mais ça valait aussi la peine parce qu'il va falloir que le juge puisse se donner à fond pour pouvoir cerner tout le contour du dossier.
Ne craignez-vous pas un procès politisé?
C'est possible que ce soit un procès politisé, parce que là, ce procès que nous sommes en train de gérer actuellement intervient à la suite du message donné en son temps par le président de la transition durant les travaux du dialogue national inclusif. Donc nous disons que c'est certes la main du politique qui est derrière ce procès, mais en ce qui nous concerne, nous on prend comme c'est un dossier judiciaire, c'est un dossier comme tout autre, il est bien vrai, et nous allons nous donner à fond en ce qui concerne la défense pour pouvoir lever l'équivoque sur certains chefs d'accusation. Parce que là, aujourd'hui, on reproche à toutes ces personnes-là d'avoir commis le crime d'assassinat. Et quand vous compulsez les jeux du dossier, on fait bien évidemment référence à l'assassinat du maréchal de Tchad. Mais il va falloir au moins que les preuves soient apportées. On ne peut pas pour autant affirmer avec facilité que ce sont ceux-là qui ont eu à donner le coup fatal, qui ont eu à attenter à la vie du maréchal. Il va falloir une analyse approfondie, il va falloir apporter toutes les preuves possibles pour soutenir l'accusation. Et je crois que c'est cette mission qui nous revient aussi de démontrer en quoi toutes ces différentes accusations ne seront aucunement tenues en ce qui concerne nos clients.
Maître Francis Lokoudé, l'un des avocats des rebelles présumés.
VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
La première rencontre africaine des écoles de journalisme et communication s'est tenue lundi et mardi à l'Institut supérieur de l'information et de la communication de Rabat au Maroc. La rencontre était l'occasion de débattre des défis auxquels la profession fait face en Afrique. Les participants ont décidé de créer un réseau des centres d'enseignement du journalisme en Afrique pour mutualiser leurs efforts. Nathalie Barge a joint la professeure professeur Yacine Gagne, enseignante au CESTI, le Centre d'études des sciences et techniques de l'information de Dakar, à son retour du Maroc.
Cette rencontre à Rabat, organisée par l'ISIC de Rabat au Maroc, sous le thème de l'enseignement du journalisme et de la communication en Afrique, question d'avenir, a regroupé 6 écoles de journalisme ou d'institutions de journalisme en Afrique. Pour l'instant, pour pouvoir mettre en place un accord ou en tout cas un réseau ou un institut, on ne sait pas, on ne connaît pas encore l'appellation exacte qu'on va lui donner, pour pouvoir faire des échanges entre les enseignants, chercheurs, les formateurs et les étudiants de ces différentes écoles.
Quel avantage pourraient toutes ces écoles tirer finalement sur le continent africain en mutualisant ces efforts, notamment au niveau de l'enseignement?
Parce qu'il y a des experts déjà dans ces différentes écoles. Chacun a ses experts dans son domaine de compétences. Mais ce qui se passe, c'est quand on a besoin d'expertise, on va chercher ailleurs. Par exemple, dans des écoles de formation occidentale, alors que nous avons des experts, mais on ne les connaît pas nous-mêmes. On ne se connaît pas, au fait. Qu'il y a un expert, par exemple, en web journalisme au Sénégal, la Guinée en a besoin, va chercher ça en France, ou en Belgique, ou aux États-Unis, alors qu'il peut bien faire appel à l'expert qui se trouve au Sénégal, parce que c'est beaucoup plus proche. Et culturellement, cet expert-là a beaucoup plus de notions que quelqu'un qui vient d'ailleurs.
Alors, quels sont les principaux défis justement à relever par le journalisme, surtout les écoles de journalisme, sachant que sur le continent, on est quand même dans des situations particulières. On sait qu'il y a des conflits, etc. Il y a des problèmes politiques. Par rapport à cela, au niveau de la formation, est-ce que vous en avez parlé lors de cette rencontre ?
Évidemment, nous avons parlé de ça parce qu'il y a l'éternel problème qu'on vit toujours, hein, la désinformation. Parce que vous savez, la désinformation en période de crise, c'est son terreau fertile. Donc, nous, écoles de formation qui formons de futurs journalistes, notre rôle, c'est de donner des outils à nos jeunes étudiants qui seront des journalistes dans le futur pour pouvoir lutter contre cette désinformation et faire aussi de l'éducation aux médias une priorité. Par exemple, le Mali va organiser, l'école de journalisme du Mali va organiser au mois de mai une rencontre interafricaine sur cette thématique, le rôle du journalisme en période de crise, parce que comme vous le savez, il y a une crise là-bas, donc quel doit être le rôle du journaliste, qu'est-ce que le journaliste peut faire pour aider les citoyens ordinaires à avoir la bonne information. Et je pense que cette rencontre est nécessaire, c'est une nécessité aujourd'hui parce que nous le subissons tous, cette désinformation-là.
Yacine Diagne, enseignante au CESTI de Dakar.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
En Ouganda, Moussa Asaya Kessera, 68 ans, est à la tête d'une famille, tenez-vous bien, de 12 femmes, 102 enfants et 578 petits-enfants. Le plus jeune est âgé de 10 ans et le plus vieux a 50 ans. Ce père de famille peine à subvenir aux besoins de ses enfants ou même à se souvenir de leur prénom. Davantage de détails avec Blanche Sanou.
Dans le village de Bugiza, en Ouganda, Moussa Asaya Kessera, un père de 102 enfants, suscite l'attraction dans sa communauté.
J'ai 12 épouses qui m'ont donné au total 102 enfants. Sur ces 102 enfants, nous en avons perdu 4 et à ce jour, il m'en reste 98. Ces 98 enfants ont donné naissance à 578 enfants qui sont mes petits-enfants.
Dans la famille de Moussa Asaya Kessera, certains essayent de gagner un peu d'argent en faisant des tâches domestiques pour leurs voisins ou passent leur journée à la recherche du bois de chauffage et d'eau, parcourant souvent de grandes distances à pied. Avec les années, Moussa Asaya Kessera ne peut même plus identifier ses propres enfants.
Le problème que j'ai avec ces 102 enfants, c'est que je ne me souviens que du premier et du dernier enfant. Je ne me souviens pas de tous les noms de certains des autres enfants du milieu.
Sa vaste famille vit dans une maison délabrée au toit des tôles rouillées et une vingtaine de huttes en terre situées à proximité. Moussa Assaya Kessira dit que c'est un héritage de son père.
Je n'ai que 2 hectares que mon père m'a laissés et dans ces 2 hectares, c'est là que nous avons tous ses enfants et cela a été un très gros problème. J'ai eu de nombreux problèmes. Trouver de l'argent pour payer les frais de scolarité, nourrir tout le monde, trouver des vêtements et de l'argent pour aider au cas où l'un d'eux est malade.
Pour éviter que la famille ne s'agrandisse encore, ses épouses prennent des moyens de contraception. Écoutons Moussa Assaya Kessira.
Lorsque j'ai vu que le nombre d'enfants était trop élevé, nous avons décidé de mettre mes femmes au planning familial pour que le nombre n'augmente pas.
La polygamie est autorisée en Ouganda. Moussa Assaya Kessira s'est marié pour la première fois en 1972 à l'âge de 17 ans lors d'une cérémonie traditionnelle. Son premier enfant est né 1 an plus tard. Zabina Assaya est la 3e femme de Moussa Assaya Kessira.
Je ne savais pas que notre mari continuerait à nous amener d'autres femmes. Quand il en a amené une autre, je me souviens que je me sentais si mal et en colère. Mais avec le temps, je me suis habituée à tout cela.
Pour résoudre les différends qui ne manquent pas dans la famille, des réunions mensuelles sont organisées. Magou Chaban, enseignant, est l'un des fils de Moussa Assaya Kessira.
Vous savez, en termes d'éducation des enfants, mon père n'a pas réussi à nous éduquer tous. Alors, j'ai réalisé que je ne devrais pas avoir une famille comme celle-là.
Lorsque le repas de midi est prêt, souvent composé de manioc bouilli, le père de famille sort de sa hutte où il passe la majeure partie de sa journée et appelle d'une voix forte la famille à faire la queue pour manger. Il vit aujourd'hui avec 7 de ses femmes à Bougiza, 5 l'ont quitté faute de ressources suffisantes ou de place dans la ferme familiale.
Les migrants à la frontière sud des États-Unis cherchant à entrer légalement doivent désormais demander des rendez-vous de traitement de leur dossier via une application mobile des douanes et de la protection des frontières appelée CBP One. Les demandes sont nombreuses et certaines personnes se plaignent que l'application ne fonctionne pas. De McAllen au Texas, un reportage de Victor Hugo Castillo, récit de Claire Morin-Gibourg.
Des centaines de migrants le long de la frontière qui demandent un permis de séjour conditionnel pour raisons humanitaires ont du mal à obtenir un rendez-vous avec les douanes et protection des frontières, ou CBP, pour se présenter à un point d'entrée pour une éventuelle admission aux États-Unis. Angeline Castellano nous l'explique.
On déprime, on a envie de pleurer parce que ça fait déjà si longtemps.
Angeline Castellano est une migrante vénézuélienne qui raconte qu'elle et beaucoup d'autres sont frustrés par la difficulté de naviguer dans l'application mobile CBP One. Les migrants avec lesquels VOA s'est entretenu rencontrent des problèmes après avoir soumis leurs informations personnelles et demandé des rendez-vous. Angeline Castellano nous l'explique.
Ça prend ma photo, elle est enregistrée et là, ça montre à quel pont je dois aller, la date et l'heure, mais ça n'envoie pas. Vous voyez l'option d'envoi, mais rien n'est envoyé.
Des dizaines de migrants se trouvent sur le pont international Reynosa Hidalgo entre le Texas et l'État mexicain de Tamaulipas, essayant d'obtenir des informations. Il raconte que le temps imparti pour terminer la demande de rendez-vous n'est que de quelques minutes. D'autres disent que l'accès à l'application est bloqué. De nouveau, Angeline Castellano.
On dirait qu'il ne l'active que de 8 à 9 heures du matin et après cela, il n'affiche plus rien, ni calendrier ou quoi que ce soit.
Ariel France est un migrant originaire de Colombie.
Erreur. Et la vérité est que je ne sais pas où aller pour pouvoir entrer légalement aux États-Unis.
Le manque de culture numérique et les coûts élevés des données cellulaires rendent le processus plus difficile pour certains migrants, dont beaucoup se sentent également vulnérables et en insécurité au Mexique. Ariel France.
Les choses sont compliquées pour nous. Nos familles attendent et beaucoup de gens n'ont pas d'argent.
Erickson Molera vient, lui, du Venezuela.
Ici, nous traversons tellement de choses. La façon dont nous dormons, parfois, nous ne mangeons pas.
Selon un porte-parole du CBP, le système fonctionne.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Seludia, à la mise en onde de Georges Léonard Sagno, à la console Kellyn Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour en suivre de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.